L'heure du R.
Audrey Pinchot qui est en vacances et Elodie qui est avec moi encore pour quelques jours.
Pour toi.
Je suis content que tu sois là.
Oh.
Parce que tu es capable de gérer le téléphone au grand complet.
Oui, bien, en général, ce qui est technique ici, ça va très bien.
C'est ça.
Hey, te souviens-tu de nos premiers moments en onde ensemble quand tu découvrais le nouveau système de mise en onde? C'était...
Bien, celui-là qu'on a là présentement, j'ai été familiarisé avec cela pendant 10 ans à peu près, j'étais correct.
Zeta, ça fonctionne super
bien. C'est l'autre d'avant.
Mais je te parle des premières fois que tu es arrivé ici à Boulevard, puis justement, tu découvrais en onde un vieux système de mise en onde que tu connaissais pas.
Mais je me faisais penser à mon père qui demandait à son enfant, tu peux-tu m'allumer la télé puis me mettre ça au U?
Ouais, carrément, là, t'avais l'air de ça.
Tu peux-tu m'enregistrer le hockey? J'aimerais ça l'écouter. Tu peux-tu... mettre ma cassette, là, mon film préféré, Rambo 1. C'était moi qui étais chargé de ça. Ben là, toi, si tu fais ça maintenant pour moi, je vieillis, hein?
Ah non, mais écoute, maintenant, tu te débrouilles très bien. Et justement, on dit ça parce qu'on a deux personnes au bout du fil aujourd'hui.
Voilà. Hey, on parle d'une histoire qu'on entend parler depuis des années, Écoute, 1969, fait que maintenant, ça fait quoi? Ça fait 30 plus 24, ça fait 55 ans. Que ça a débuté, cette histoire-là, qui est une histoire très malheureuse sur la finalité, bien entendu. Puis il y a une énigme là-dedans qu'on n'a jamais réussi à connaître. La famille de cet individu-là, qui est un bon policier, cherche encore aujourd'hui à avoir des réponses à leur questionnement. C'est le 10 novembre 1969 que le policier Louis-Georges Dupont a été retrouvé mort dans son véhicule de service. L'enquête a été bouclée en quelques heures et l'enquête dit, monsieur Louis-Georges Dupont s'est suicidé et il y a des éléments de preuve qui vont être classés très rapidement et l'affaire a été close. Donc, les policiers, de leur côté, ne voulaient plus en parler. Par contre, pour ce qui est de la famille, c'est autre chose. La mort du policier Louis-Georges Dupont continue de faire les manchettes. On réfute du côté de la famille la conclusion de l'enquête. On parle d'un long combat pour faire la lumière sur les faits. Puis on a le plaisir d'avoir deux personnes au téléphone présentement. J'ai le fils de monsieur Dupont, Robert Dupont, qui est le fils de Louis-Georges Dupont, et Denis Foucault, qui est le porte-parole, lui, de la famille. On va commencer avec M. Robert Dupont. Bonjour, M. Dupont, comment allez-vous aujourd'hui?
Ah, ça va, ça va.
54 ans, et vous vous posez encore une multitude de questions sans voir vos réponses.
Ben 55 ans, là, bientôt au mois de novembre. Là, ouais.
Exact, exact.
Ouais, ben, on avait eu des jugements puis des commissions... d'accès à l'information. Tout le monde nous avait donné raison jusqu'à temps qu'on arrive devant une commission d'enquête qui n'a pas été correcte.
Vous aviez quel âge au décès de votre père?
Moi, j'avais 14 ans.
Vous aviez 14 ans, donc vous vous en souvenez comme si c'était hier, cette journée-là où on vous a annoncé que votre père était malheureusement décédé?
Bien, c'est sûr que mon père était disparu 5 jours. Fait que dans la maison, c'était 5 jours là, à se poser des questions. Qu'est-ce qui arrive? Ça va vraiment arriver, ça? Fait que ça a été bouclé, comme tu dis tantôt, bâclé par les policiers ripoux là, qui ont été destitués un mois après la mort de mon père, les mêmes qui ont fait l'enquête sur sa mort.
Ouais.
Je comprends pas comment la Sûreté du Québec peut continuer à cautionner ça. Moi.
Monsieur Foucault, on me dit que Louis-Georges Dupont a enquêté sur certains collègues dans la police de Trois-Rivières. On me dit aussi qu'il a enquêté sur la mafia. Racontez-moi un peu l'affaire Dupont dans son ensemble.
En fait, l'origine dans tout ça, c'est qu'il y a un conseiller municipal, Gaston Vallière, qui voyait qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond dans la ville de Trois-Rivières. Puis, ça a été un lien comme ça qui s'est fait auprès de Louis-Georges Dupont parce qu'il était un policier de confiance. Et c'est ça qui a fait en sorte que Louis-Georges Dupont a été mêlé à cette affaire. Donc, comme le dit Robert, c'était une enquête qui a été bâclée. Parce qu'il y a eu une vision tunnel, fort probablement d'une personne qui a été suspectée, qui est Jean-Marie Hubert, qui était à l'escouade de la moralité. Donc, dans le fond, lui, il se trouvait à l'escouade de la moralité. Donc, c'est assez particulier parce qu'il y avait beaucoup de prostitution et de corruption dans la ville de Trois-Rivières à ce moment-là. Parce que vous vous souvenez, à l'époque, à Montréal, on avait fait un certain nettoyage avec Max Plant.
Oui.
Et ça s'est finalement propagé vers la ville de Trois-Rivières, vers l'est, le déplacement de la corruption. Donc, c'est comme ça, comme tel, que ça a commencé à la fin des années 60.
Donc, M. Dupont aurait vu ses collègues être impliqués dans la prostitution. Et si je ne me trompe pas, cette prostitution-là de Trois-Rivières, c'était lié là, dans l'affaire du clan Cotroni.
Exact.
OK. Qu'est-ce qui vous fait penser que les résultats de l'enquête ne sont pas bons? C'est quoi les éléments qui sont ressortis que vous vous dites ça, ça n'a vraiment pas de bon sens?
Ben comme que, je sais pas si tu as vu le documentaire, puis le balado puis, de M. Berthomé, puis tout ça, là, son livre. Mais dans l'auto, quand on trouvait mon père, il n'y a pas de sang. Quand il était sorti du char, il n'y a pas eu d'expertise sur l'auto. Les mêmes policiers, comme Denis vient de dire, c'est eux qui font l'enquête. Là, il est amené à Montréal devant un pathologiste, Dr. Wood, qui n'est pas pathologiste. Son autopsie est sommaire et incomplète, ça c'était dit. Mon père est en rigidité. La lividité ne correspond pas avec quand il est retrouvé dans l'auto. Il n'a pas ses lunettes. Il n'est pas habillé de la même façon quand il est parti de la maison. Il y a des traces de pneus en avant de la voiture. Puis la voiture, supposément, elle dit c'est à Saint-Roux qu'elle est là. Puis il a mouillé pendant Saint-Roux. Il n'y a pas d'empreinte sur l'arme. Les balles qui sont dans l'arme ne concordent pas avec la balle qu'il aurait supposément retrouvée. Il y a des balles chemisées dans l'arme. Les autres disent qu'il aurait retrouvé une balle de plomb. Puis là, avec le dénouement qu'on a fait, ben là, les ceux qui avaient dit qu'ils avaient retrouvé une balle, ils se sont parjurés. Là, ils ont dit qu'ils n'ont pas retrouvé de balle. Fait que ça, tout le monde est impliqué au poste de police pour cacher un meurtre. C'est ça qui est arrivé.
Y a-tu des gens à la Sûreté du Québec qui ont décidé de vous aider, la famille Dupont? Parce que ce que j'ai vu dans l'affaire Berthomé, c'est que il y avait comme un froid, là, la Sûreté du Québec. Avec
Mais non, c'est moi et mon frère qui étaient accusés.
Ils vous ont accusé pourquoi?
Parce qu'ils disaient qu'on avait falsifié des photos et qu'on avait falsifié la preuve. Devant la commission de la montagne, il y a des personnes qui sont venues témoigner que mon père aurait une deuxième balle à côté de l'omoplate. En avant, elle n'a pas tenu compte, puis elle a plutôt ordonné de déterrer mon père avec le docteur Baden. Puis dans le documentaire, c'est montré, puis on dit il n'y en a pas de trop dans le sternum, mais ça donne après ça qu'il y en a eu un. Tout est fait pour protéger les erreurs de l'Institut médico-légal en 69. Aujourd'hui, là, pendant qu'on se parle, là, des erreurs de même, ça ne pourrait pas arriver. Parce que ce serait un autre corps policier qui ferait l'enquête. Puis, avec toutes les technologies qui possèdent dans l'Institut médico-légal, c'est impossible que ça arrive. C'est les erreurs qui sont continues à protéger. La preuve, elle démontre que mon père a eu deux balles. Là. Mais on va prochainement, Denis peut te l'expliquer. On va procéder avec ça. Là.
Allez-y, M. Foucault.
Oui, parce qu'il y a de l'information qui n'a pas transité en commission d'enquête. Parce qu'au départ, il faut savoir que s'il y a eu une commission d'enquête au milieu des années 90,
ouais.
Commission d'enquête que j'avais suivie à l'époque comme journaliste, là, donc c'est pour ça que j'ai un intérêt particulier par rapport à la famille. Là, maintenant, je ne suis plus journaliste, donc je suis détaché de tout ça. Je peux agir de façon neutre et accompagner la famille. Mais la commission d'enquête, c'était à la suite d'un jugement qui avait été rendu et qui avait, au niveau de la conclusion, le juge Yvan Saint-Julien avait vraiment parlé de meurtre. Et là, il voulait qu'on éclaircisse cette question-là au niveau du meurtre. Alors que ça a été reviré comme tel en commission d'enquête, où, comme le dit Robert, il y a un document qui n'a pas été présenté, et que là, nous allons faire valoir au gouvernement, qui fait en sorte que la Sûreté du Québec savait qu'il y avait une deuxième balle. Alors, si une personne se suicide, c'est assez particulier qu'il y ait deux balles dans un corps, et qu'on se retrouve avec une balle près de l'omoplate, et une autre balle où les experts se confondaient, à savoir au niveau de la plaie d'entrée. Alors, est-ce que c'est entré par l'avant ou par l'arrière? Donc, on comprend que lorsqu'il y a un trou dans le bas du dos, ben on ne peut pas en arriver à se tirer dans le bas du dos. Alors, si la balle est entrée par l'avant, mais dans l'angle que c'est placé, ben il aurait fallu que le revolver soit placé complètement au-dessus de la tête. Alors, on sait que les policiers interviennent souvent dans des questions, justement, de suicide. Et lorsque une personne veut s'enlever la vie, les policiers, s'ils le savent, ils se tirent soit dans la bouche ou ils se tirent directement dans la tête.
Est-ce qu'il reste encore des gens vivants de l'époque qui ont côtoyé votre père puis qui décident de parler aujourd'hui en 2024 où tous ces gens-là ont disparu?
Il y en aura encore.
Il y en aura encore?
Mais c'est la loi du silence, c'est ça qui arrive là. Tout le monde se protège là-dedans, puis là, mon frère est décédé. Mon frère, c'est celui quand même qui a fait toutes les demandes administratives puis qui avait identifié mon père puis que lui a fait tout ce qu'il fallait. Là. Moi, j'ai participé, on était deux là-dedans. Là. Puis avant ça, ma soeur Joanne, qui était très proche de mon père, qui disait tout ce que mon père a vécu là, dans la même semaine avant de disparaître. Là, des chars noirs autour de la maison, il était poursuivi. Il avait dit à plein de monde que c'était à cause de son témoignage devant la commission de police que ses routes a compté. Bon, ben aujourd'hui, on continue à défendre ça, là. Mais comme Denis vient de dire, il y a des preuves, il y a de l'omission de preuves. Ça a été fait devant la commission de la montagne. Il y a des personnes qui ont témoigné devant elle à Stéphala, puis elle n'a rien retenu. Ma mère, qui est le premier témoin, elle dit, mon père, mon mari est père de monsieur, de Jean-Marie Hubert et de Robert Gignac. Robert Gignac, c'est un des bras droits de Lucien Rivard. Lucien Rivard, là, je pense que le monde, il le connaît, oui. Ça. Bon, ben, Robert Gignac est évadé de prison, puis il était avec Jean-Marie Hubert. Mon père, il a dit à ma mère, pendant une semaine de temps, j'ai peur de ces deux personnes-là. Mais ça reste là. Écoute, c'est de la pègre, là. C'est sérieux, là. Puis la police était complètement corrompue. Puis la Sûreté du Québec continue à dire que c'est nous autres qu'on fait ça pour rien. Là, maintenant, tout a été fait devant le juge Saint-Julien. Il a retenu, lui, que c'était un meurtre. Mais ceux qui sont venus faire la commission d'enquête, ceux qui avaient perdu devant le juge Saint-Julien, c'est les mêmes c'est des personnes interposées qui sont venues faire l'enquête pour défaire le jugement. Parce que notre jugement, au niveau d'un médico-légal, ça c'est l'avocat qui l'a dit, il faisait jurisprudence au Québec. Il n'y en avait pas de cas comme nous autres. Puis le Dr Wood, il n'est pas pathologiste accrédité. Encore moins pathologiste judiciaire. Puis quand il a témoigné en 96 devant la commission, il savait même pas la nature des blessures que mon père avait. Il savait pas en avant qu'est-ce que c'était la blessure, ni dans le dos. Il l'a avoué. Puis après ça, il demande si c'est possible que ça y ait un homicide. Il dit oui. Puis on me dirait que M. Dupont, il est mort la veille, je le croirais. Fait qu'il est venu faire des aveux devant la commission, savoir qu'il avait manqué son autopsie. Mais elle, en avant, était là pour protéger les erreurs. C'est ça qui est pas compliqué. C'est pas comprenable.
Mais tout à l'heure, vous parliez de la rigidité cadavérique de votre père lorsqu'on a fait l'autopsie qui ne concordait pas avec son heure de décès. Vous parliez de la balle aussi qui ne correspondait pas avec les balles qui étaient dans l'arme. Vous parliez de véhicules noirs qui vous suivaient. Qui était dans ces fameux véhicules noirs-là?
Est-ce que c'était à l'entour de la maison, chez nous, il y a plusieurs personnes qui ont témoigné là-dessus. Ouais. Il y avait deux véhicules qui se plaçaient à côté de la maison. Puis c'était des véhicules avec deux personnes dans chaque véhicule. Puis c'était des gros chars noirs. Ma mère, ma soeur, des amis de ma soeur, puis tout, ils ont témoigné là-dessus. Puis ça, c'est des chars, c'est pas des chars de la police, là. C'est des chars de la PEG qui surveillaient la maison. Puis mon père, comme je t'ai dit tantôt, était disparu 5 jours.
Ouais.
Puis il n'est pas retrouvé avec son habit gris, c'est l'avant neuf. Il a retrouvé qu'une vieille habit beaucoup trop grande pour lui. Il a le nez cassé. Si tu verrais la face de mon père, là, il y a un trench plein de boîtes. Supposément qu'il est parti du poste de police. Il est allé s'enlever à vue sur le boulevard Saint-Jean. Mais il est retrouvé avec un trench plein de boîtes, le nez cassé, une blessure à la bouche, puis c'est pas ses vêtements. Puis ça, ben, on n'en tient pas compte. Ça, c'est nous autres qui dit ça. Ben, c'est nous autres. C'est sûr, c'est nous autres, c'est notre père.
Oui. Monsieur Dupont, ça fait 50 ans que vous vous battez pour connaître la vérité. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez la connaître un jour? Y a-t-il des gens à la Sûreté du Québec en qui vous avez confiance, qui un jour ou encore aujourd'hui regardent un peu l'affaire Dupont en disant « Moi, un jour, je vais la résoudre, cette énigme-là? »
J'en ai rencontré une couple de policiers. Quand je les ai montré l'affaire de mon père, c'est vrai que ça marche pas. Ben, il dit « Pourquoi tu nous aides pas? Ben, moi, tu comprendras. Hein? » Non. C'est ça, là. Il y a la loi du silence dans la mafia, il y a la loi du silence dans la police. C'est ça qui marche pas, là. Moi, je suis sûr qu'il y a des bons policiers au Québec, parce qu'on est rencontré une couple, ils sont d'accord. Ils viennent dire que moi, t'as vu. Ben, Robert, vas-y, continue, toi. Nous autres, on peut pas. Ben oui, mais écoutez, c'est vous autres qui avez porté serment, là. C'est vous autres, la police, c'est pas moi, là. Nous autres, on continue à dénoncer, mais comme je te dis tantôt, là, on a passé notre vie, Hey, t'es obligé d'aller à la TV, compter notre vie pour avoir la justice, c'est-tu normal au Québec, ça?
Non, effectivement, c'est pas normal.
Ah, c'est ça qu'on a fait.
Monsieur Foucault, est-ce qu'il va y avoir du développement? Est-ce que les politiciens s'intéressent à cette affaire-là? Est-ce que, je sais pas, moi, Simon Jolin-Barrette pourrait revoir l'affaire Dupont et dire, attendez un peu, là, moi, je regarde les conclusions de l'enquête sur l'affaire Dupont, je regarde les conclusions du médecin, l'autopsie et tout ça, il n'y a rien qui concorde, mais on va essayer de réécrire l'histoire parce que, visiblement, il y a des erreurs qui ont été faites. C'est-tu possible en 2024, ça, M. Foucault?
Ben, on est rendu là. C'est ce qu'on va faire. Dans un premier temps, nous, de la façon qu'on a réagi, lorsque le documentaire de Stéphane Berthomé était présenté en décembre dernier,
On est allé vers la ville à ce moment-là. Le premier élément, c'était ça, parce qu'il y avait une question aussi de commémoration. Alors nous, c'était dans ce sens-là, c'était pas de piéger la ville, c'était pas à la ville d'en arriver à décider s'il y a meurtre ou suicide, c'est du côté du gouvernement du Québec. Donc on est allé du côté de la ville, et là, du côté de la ville, le directeur de police, lui, s'est bien rendu compte en écoutant le documentaire que ça avait pas de sens, puis qu'il y avait des éléments nouveaux qui méritaient d'être enquêtés par la Sûreté du Québec. Et le directeur de police a fait une intervention, et il s'est fait dire en peu de temps, on sait pas si c'est un courriel ou uniquement une conversation téléphonique, on lui a dit, non, le dossier est clos pour nous, puis il n'y a pas de fait nouveau. Alors, c'est sûr que nous, on veut revenir vers le gouvernement du Québec de ce côté-là, donc on fait ça en parallèle. Et oui, on va monter un dossier parce qu'on a des éléments nouveaux dans le documentaire, mais on a d'autres éléments aussi qui se sont ajoutés en 2024, et on va intervenir auprès des ministres concernés. Et si c'est le ministre de la Justice, ben on ira là, parce que du côté de la sécurité publique, ben on voit qu'on a comme des fins de non-recevoir.
C'est quoi les éléments qui ont été ajoutés en 2024?
Ben, en 2024, parce que là, on a, entre autres, un document qui n'a pas été présenté à la commission de la Certes-la-Montagne. Alors, lorsqu'on parle de la fameuse deuxième balle, là, ben ça n'a pas été présenté, puis on a une preuve documentaire là-dessus qui avait été déjà présentée au ministre de la Sécurité publique, Serge Ménard, à l'époque, et que ça n'a pas été présenté devant la commission de la Certes-la-Montagne au milieu des années 90.
Monsieur Dupont, vous aviez quelque chose à ajouter?
Oui, ben c'est ça, dans le documentaire, celui qui a il y a un photographe, Trois-Rivières, qui a développé des négatifs pour la commission d'enquête. C'est dans le documentaire de Stéphane Berthomet. Puis cette personne a dit qu'elle a développé 8 à 9 négatifs qu'on veut montrer au complet à l'autopsie à Montréal. Sur le ventre, sur le dos, sur le côté. Bon. Mais ces photos-là sont pas aux archives nationales, parce que la commission d'enquête, tout a été déposé aux archives nationales. Moi, j'ai été faire des recherches, Stéphane aussi, puis on a fait tout notre travail, là. Les 8-9 photos que le photographe parle, là, sont pas aux archives nationales. Ça s'ajoute avec le document que Denis vient de parler. Là. Comment ça que la commission cache des photos de mon père qui est nu à l'autopsie, puis qu'on verrait les deux trous dans le dos, les deux plaies de 10 mm. S'il y a deux plaies de 10 mm dans le dos, ça veut dire que c'est deux entrées de balles, ça. Fait qu'il était tué ailleurs que dans l'auto de police. Il était tué dans un autre auto, supposément d'après des personnes que j'ai rencontrées. Puis ils ont maquillé ça en suicide sur le boulevard Saint-Jean. Il aurait été tué à Champlain, là. Il avait été détenu dans un chalet qui appartenait à des salauds, là.
Ouais.
Puis il aurait été tué là, à Champlain. Puis il aurait manipulé le meurtre en suicide sur le boulevard Saint-Jean.
Parce que dans
le même Hubert qui était suspendu au début de la commission de police en 69 par une magouille politique, qui a été réinstallé 2 semaines après. Puis là, il était supposé faire du travail de bureau. Bon. Ben ça se donne que c'est lui qui a finalisé l'enquête de mon père dans le fond d'impact avec un coroner. Ça se fait pas, ça, là. Ils ont finalisé le dossier au Parc Sainte-Marguerite, dans la paroisse qu'on est né. Puis, il dit que telle personne sont pas là. Il y a des photos qui sont déposées, 7 photos. Ça se donne que moi, j'ai parti avec 14 ans. Puis quand j'ai recommencé à me mêler là-dedans, 82, suite à la deuxième commission de police qui est à Trois-Rivières, j'ai rencontré le ministre Denis Vauvois. Il dit, Robert, je vais t'envoyer à la commission de police, vu qu'il y avait une deuxième enquête. Puis là, ils sont venus à la maison, puis là, j'ai sorti les 7 photos. Il dit, comment ça que t'as ça, toi? Ben, c'est un dossier de police, t'as pas d'affaire, ouais, ça. Ben, je les ai pris pendant la commission, parce que c'était une commission bidon, ça. L'affaire du coroner Chartier. Il dit, voyons donc. Ben, il dit, là, ils les ont saisis. Mais ces 7 photos-là, là, il y en a une qui est bien importante, c'est quand on voit mon père sur le côté du chauffeur qui est versé vers la droite, puis il y aurait un impact de balle au niveau de l'omoplate dans le trench, parce qu'il y aurait une brûlure, ça, des personnes qui ont témoigné là-dessus, il y a une brûlure au niveau de l'omoplate dans le trench coat, mais la photo qui est claire est disparu. Ils ont fait des photos, ça s'est rendu, mon père il y a un trench bleu. On ne voit plus l'impact, là. Mais la vraie photo a disparu. Puis là, je t'ai parlé tantôt d'un monsieur, un photographe qui aurait 8 négatifs à 9 négatifs qui aurait développé qu'on voit mon père au complet à l'autopsie. Mais là, il manque des photos. Il y a des témoins qui n'ont pas été retenus. Puis là, on a un document qui certifie à partir de la Sûreté du Québec, déposée à M. Sermonneau, il y aurait un deuxième impact de balle. Là. Je pense que ça n'intéresse plus la sécurité publique 55 ans après. Là, on est rendu au ministère de la Justice. Il y a de l'omission de preuve, c'est volontaire.
Non, en même temps, faut que la vérité sorte à un moment donné.
Ben là, M. Dupont, il faut que ça finisse.
Puis qu'est-ce qui vous a permis de croire, à vous et votre famille, puis les gens qui se sont intéressés au dossier, que votre père avait été séquestré? Puis vous m'avez parlé d'un chalet tout à l'heure dans le documentaire aussi. On parle de ce fameux chalet-là. Chalet qui a été mis en doute par la Sûreté du Québec en disant ce chalet-là n'existe pas. Qu'est-ce qui vous a laissé penser ça, que votre père avait été séquestré?
Bien, moi, c'est parce que Pierre Corbin, qui travaillait dans des bars dans ce temps-là, lui, puis il travaillait dans les hôtels, justement, là, qui avaient de la grosse prostitution, puis il connaissait ces policiers-là corrompus. Puis il y a eu de l'information, lui, à savoir que mon père aurait été détenu dans ce chalet-là, Champlain, pendant quelques jours, puis que c'est là qu'il aurait été transféré d'auto dans l'auto d'Hubert, justement, puis qu'en embarquant dans l'auto d'Hubert, c'est là qu'Hubert l'aurait tiré dans le dos, puis il serait décédé dans l'auto d'Hubert. Puis, Hubert a fait brûler, ici, à Trois-Rivières, dans le temps, à côté de l'université, c'était des terrains vagues, ça. Il aurait fait brûler son auto, que mon père aurait été tué dedans. Puis là, il aurait mis mon père dans l'auto de police qui était parti avec le 5 novembre. Puis il aurait fait ça comme un suicide sur le Bois-Saint-Jean. Mais son auto, c'est lui qui l'a fait brûler. Puis c'est lui-même, vu qu'il était lieutenant détective, c'est lui-même qui s'est emparé de l'enquête du vol de son auto, puis il l'aurait fait brûler. Ça, c'est Pierre Corbin qui nous a conté ça. Puis moi, je crois que c'est ça la vérité. Monsieur... Parce que ça concorde avec ce que ma mère a toujours dit. Mon père, il avait peur de Jean-Marie Hubert, puis de Robert Gignac, puis ça donne que ça concorde avec ce que Pierre Corbin est arrivé, là. Moi, j'ai pas de doute là-dessus.
Monsieur Foucault, vous avez été journaliste longtemps. Des histoires comme le sergent détective Louis-Georges Dupont à Trois-Rivières, ça n'existe pas nulle part au Canada. Je n'ai jamais entendu parler d'une histoire semblable.
Ah, c'est une histoire qu'on pourrait dire même de film. Donc, c'est pour ça qu'il y a des éléments comme ça. La liste est tellement longue, puis Robert les a pas tous nommés, les réponses qu'on n'a pas obtenues au niveau des questions. Juste l'idée du chalet dont on vient juste de parler,
oui.
Ben, la journaliste d'enquête, Mylène Moisan, l'a démontré que le chalet existait bel et bien après le décès de Louis-Georges Dupont. Donc, elle a des relevés topographiques, donc c'est de l'information factuelle. Donc, ça peut pas être contesté. Alors, de dire qu'il y a des témoins qui en ont parlé à Stéphane Berthomet, qu'il y avait des policiers qui se retrouvaient avec des danseuses, donc de la prostitution dans ce chalet, c'était vrai. Donc, on peut pas défaire ces éléments-là. Pourquoi la commission La Serre-la-Montagne a donné beaucoup de crédibilité à Jean-Marie Hubert, alors que c'était un policier qui a été congédié par la ville de Trois-Rivières? Donc, c'est juste cet élément-là. Comment on peut faire foi d'un témoignage de quelqu'un qui, à peine au début d'une enquête, mentionne déjà la cause suicide dès le départ? Donc, il a orienté déjà l'enquête, il a orienté déjà des gens. Alors, c'est ce que je comprends pas. Déjà, dès le départ, ça ne fonctionne pas. C'est déjà trop gros. Moi, je peux vous faire un parallèle, là. Avec la politique, là, on entend souvent des inepties de Donald Trump aux États-Unis, puis on se dit, voyons donc, ça n'a aucun sens. Ben, dans l'affaire Dupont, depuis 55 ans, moi, j'ai couvert la commission La Serre-la-Montagne et les audiences aussi du juge Yvan Saint-Julien, et là, je voyais beaucoup d'invraisemblances de cette nature-là. Et c'est pour ça que je trouve que ça a du sens qu'on se retrouve encore du côté de la famille à maintenir cette lutte, ce combat. Et on parle de Stéphane Berthomet, ceux qui en entendent parler pour la première fois de l'affaire là, actuellement, là. Mais Stéphane Berthomet, c'est un ancien policier en France,
un
et qui est venu
ouais.
au Québec. Ouais. Et là, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire du documentaire. Puis au départ, ce qu'il disait à la famille, c'était pas quelque chose d'organisé en disant, bon, on va montrer que ton père a été vraiment assassiné. Non, lui, il a voulu reprendre comme tel tout le travail d'enquête, puis il dit, on va voir ce qu'il en est. Mais lui-même est arrivé aux mêmes conclusions que la famille. Et ça a été, je dois vous dire, un travail gigantesque, titanesque de Jacques, qui est décédé, le frère de Robert, il y a maintenant un peu plus d'un an. Et Robert qui maintient comme tel la cause, puis c'est une question de dignité, parce que quand on a des discussions ensemble, Robert et moi, mais c'est pas pour des questions d'argent, c'est vraiment pour réhabiliter la mort de son père, donc réhabiliter la mémoire de son père.
En espérant que la politique vous écoute, M. Foucault, ainsi que M. Dupont, la famille Dupont, vous êtes des tenaces, puis j'espère que vous allez réussir à rendre justice à votre
père. Parce qu'au moins, m'envoie la conscience tranquille.
Exactement, puis à un moment donné, ben, redonner à votre père ce qu'il mérite, c'est-à-dire...
Exactement, c'est ça le combat qu'on continue, là.
Exact. Un gros merci.
On m'envoie 70 ans bientôt, fait qu'à un moment donné, il faut que ça finisse. Hein.
Oui, mais vous sonnez encore très jeune, là.
C'est ça pareil.
Lâchez pas, puis un gros merci pour l'entrevue aujourd'hui.
Ben, c'est nous autres qui vont.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup.
Au revoir. Bye-bye. Robert Dupont, qui est fils de Louis-Georges Dupont, et Denis Foucault, qui est porte-parole de la famille. On parle de l'étrange mort de Louis-Georges Dupont. Quelque chose qui est arrivé le 10 novembre 1969. Le policier Louis-Georges Dupont, qui est retrouvé mort dans son véhicule de service. On parle d'une enquête qui a été bouclée très, très rapidement. Puis on a conclu rapidement un suicide. Et les éléments de preuve qu'on a ressortis quelques années plus tard démontrent clairement que ce n'était pas un suicide, là. C'était probablement un meurtre. Et encore à ce jour, après plus de 50 ans, la famille se bat pour savoir le fin fond de l'histoire de tout ça. Et on ne semble pas vouloir rouvrir le dossier parce que ça semble être une plaie très infectée, mais qui s'est refermée. Ça, on ne veut pas la rouvrir en disant, attends, ouais. Il y a des policiers ripoux, on va être obligé de sortir leur nom.
On a peur.
Il y a des
de
familles qui vont être entachées.
Tout le pu qu'il y a là-dedans.
La perte de confiance du public envers les autorités. Ça semble être très lourd à ouvrir, cette filière-là du policier Louis-Georges Dupont. Puis, quand je pense qu'il y a des membres de la famille qui sont encore en vie, qui veulent faire reconnaître le meurtre de leur père plutôt que le suicide de leur père. Puis, des messieurs comme Denis Foucault, qui sont d'excellents communicateurs, qui aiguille un peu la famille Dupont pour dire, bien, regarde, voici ce que vous pouvez dire, voici ce que vous ne pouvez pas dire, parce que si jamais il y a une enquête plus tard, ça peut-être revenir, vous revenir sur le nez. Donc, Denis Foucault qui fait une bonne job à cet effet-là. Moi, ça fait depuis 2006 que je fais de la radio. Je dois avoir entendu ça peut-être une bonne vingtaine de fois, mettons, l'affaire Dupont.
Cette histoire-là.
Puis quand j'ai été à Trois-Rivières, je l'ai entendu à toutes les fois que j'y ai été.
Fait que ça a marqué beaucoup de
personnes. Ça a marqué beaucoup.
Avec raison, parce que quand on entend tous ces faits-là, on se rend compte d'à quel point il y a eu du laisser-aller, il y a eu de la cachette. Puis ça peut juste réveiller de la frustration à l'intérieur.
Bien, c'est clair.
Tu peux pas écouter cette histoire-là. Tu peux pas écouter Robert Dupont parler de son père, qui est décédé alors qu'il avait 14 ans, puis rester insensible. Tu as envie pour M. Dupont que ça avance. Tu as envie qu'il y ait justice. Lui, il a perdu dans les dernières années son frère et sa sœur, les deux autres enfants de Louis-Georges Dupont. Puis il a décidé de continuer de mener ce combat-là. Comme il disait, il est rendu à 70 ans. Puis quand il t'a posé la question, là, ça m'a frappé. À un moment donné, il t'a posé la question, c'est-tu normal qu'au Québec, notre famille ait besoin d'aller se placer devant les caméras pour faire des documentaires, pour faire des émissions, pour faire des entrevues, pour faire avancer ce dossier-là? La réponse est définitivement non. Je pense pas que ce monsieur-là, ce soit un kid Kodak, là. Il fait vraiment pour qu'il y ait justice pour son père. Puis personnellement, c'est une histoire que je connaissais moins. Puis j'étais très heureuse d'entendre ces deux interlocuteurs-là aujourd'hui.
Écoutez le documentaire « L'affaire Dupont », le combat d'une famille, surtout .tv. Puis vous allez avoir une plus grande idée là, de toute l'affaire du policier Louis-Georges Dupont. Peut-être qu'un jour, on en saura un peu plus sur le dénouement final, mais on sait. Tu sais, il y a un vieil animateur de radio qui travaille malheureusement un peu à radio. Il est mort. Il disait... Quand ça a de l'air de la marde, quand ça sent la marde, quand ça goûte la marde, c'est de la marde. Bon.
C'est sage.
C'est dit de même, ça a de l'air bizarre, mais dans l'affaire Dupont, ça a de l'air vraiment d'un meurtre. Et c'est possiblement un meurtre avec tous les nouveaux éléments qu'on a appris dans le documentaire L'affaire Dupont. 10h51, on fait une courte pause. Vous avez des choses à me dire, c'est le 418-971-1021. Hello, le numéro de téléphone?
780-1021.
Ah oui?
J'ai eu un blanc tantôt.
Ouais, non, t'étais bonne.
Ce segment d'émission, présenté